C'est le journal d'Alexis Morel. Bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Quand les petites mains du commerce en ligne se mobilisent pour la première fois, bras de fer pour les salaires chez Amazon France. Dernière négociation aujourd'hui et nouveau débrayage attendu dans les entrepôts. Depuis 10 jours, l'entreprise vit un mouvement social inédit, vous l'entendrez. La présidentielle et le premier meeting de l'entre-deux-tours ce soir pour Marine Le Pen. La candidate du Rassemblement National cherche à crédibiliser son programme. Mais qui pour gouverner à ses côtés si elle est élue? Le RN a bien du mal à répondre à cette question, dossier à suivre. Au sommaire aussi, les États-Unis qui envoient des armes plus lourdes aux Ukrainiens et la débâcle des tennismen français. Plus aucun joueur tricolore au deuxième tour du tournoi de Monte-Carlo.
Et au micro de Léa Salamé dans 20 minutes à 7h50, c'est donc aujourd'hui le porte-parole du Rassemblement National, conseiller de Marine Le Pen, Franck Alizio.
France Inter.
C'est peut-être un tournant, Alexis, dans une entreprise qui ne connaissait pas jusque-là le mot grève.
Depuis quelques jours, la course effrénée des colis est un peu ralentie chez Amazon, avec ces scènes inhabituelles dans les entrepôts français du géant du commerce en ligne. Des salariés débrayent à tour de rôle pour réclamer des hausses de salaire. Les syndicats parlent de 2000 grévistes sur les 11 000 employés que compte Amazon dans l'Hexagone. Et c'est donc aujourd'hui que tout se joue, dernière séance de négociation. La direction a d'abord proposé 2 puis 3% d'augmentation. Les syndicats demandent 5% compte tenu de l'inflation et des bénéfices du groupe. Et ils sont portés donc par la mobilisation inédite de leur base, Claire Chaudière.
À 1400 euros net par mois, Hugo, la vingtaine, deux enfants en bas âge, a débrayé il y a quelques jours à peine sur le site de Beauve près d'Amiens où il emballe la marchandise dans un immense entrepôt.
C'était mon premier mouvement de grève en fait.
Et il se dit prêt à recommencer.
Concrètement, on s'en sort pas. Personnellement, je sais qu'à partir du 10, je suis déjà découvert. Quand la paye, elle revient, je renfloue mon découvert. Mais au final, c'est yo-yo, quoi. Il y a eu un effet boule de neige. Il y a d'autres petites entreprises où les salariés sont payés mieux, alors qu'ils génèrent moins d'argent que Amazon. Voilà, ils ont fait un bon profit pendant le confinement. On voit qu'il va faire des voyages dans l'espace, il fait démonter un pont pour son yacht. Je pense qu'augmenter ses salariés, il est très capable de le faire.
Un mouvement perlé, mais tout de même inédit, martèle Jérôme Guilin, élu Sud à Douai, dans une entreprise où c'est la résignation qui règne d'ordinaire et où les grèves ont bien du mal à perturber une activité facilement déportable, explique-t-il, dans un site à l'autre.
C'est une toile d'araignée. On l'a vu lors de la fermeture des sites en 2020, lors du Covid. Ils contournaient et ils passaient par l'Europe. Donc on le sait, on en est conscient, mais tout doucement, on y arrive.
Du côté de la direction d'Amazon, on relativise l'ampleur des perturbations tout en insistant sur le contexte global. Difficultés liées au pouvoir d'achat et présidentiel. Augmenter de 3% les salaires est une proposition très attractive, ajoute-t-on, au regard des hausses moyennes accordées dans les grandes entreprises françaises.
Et les syndicats d'Amazon appellent donc à de nouveaux débrayages ce matin à l'occasion de cette ultime journée de négociations salariales. Chez Stellantis aussi, les questions de salaire cette semaine, mais de salaire du patron. Les actionnaires ont voté hier contre la rémunération proposée pour Carlos Tavares à la tête du constructeur automobile. Au moins 19 millions d'euros pour l'exercice 2021, mais ce vote était purement consultatif. On y revient dans le journal de 8h.
Et voilà de quoi nourrir les débats de l'entre-deux-tours de la présidentielle.
Oui, car pour le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, la rémunération de Carlos Tavares est excessive. Quand Marine Le Pen la juge, elle, choquante, mais je cite, moins choquante que d'autres, car les résultats sont là. La candidate du Rassemblement National attendue aujourd'hui à Avignon pour son premier meeting de l'entre-deux-tours. Si elle est élue le 24 avril, Marine Le Pen promet un gouvernement d'union nationale. Mais avec qui? Bonjour Élodie Forêt.
Bonjour.
Ça, c'est toujours le grand flou. Hein. Quelle personnalité pour l'accompagner au pouvoir en cas d'élection?
Oui, dans sa quête de crédibilité, c'est sans conteste l'une des plus grandes faiblesses de la candidate, la pauvreté de son banc de touche. Les proches de Marine Le Pen l'admettent eux-mêmes, c'est une petite équipe qui a mené campagne. Et si la candidate affirme bravache qu'elle a de quoi constituer 4 ou 5 gouvernements, les noms d'éventuels ministrables ne sont pas légion. Jordan Bardella, Louis Alliot ou Franck Alizio, qui par exemple, pour prendre Bercy, on a envisagé de sortir un monsieur économique, licence stratège, mais Marine Le Pen a finalement refusé. Seul ancien ministre de la bande, le russophile Thierry Mariani, est aujourd'hui hors jeu au vu de ses positions pro-Poutine.
Et au RN, Élodie, comment justifie-t-on ce flou ?
Premier argument, les Français s'en moquent. C'est un truc de journaliste de savoir qui va gouverner avant 5 cadres. Deuxièmement, la stratégie reposant sur la rencontre entre Marine Le Pen et le peuple. Regardez Zemmour, dit le même cadre, il a fait une campagne de ralliement, ça n'a pas marché. enfin le gouvernement d'union nationale. Marine Le Pen dit en être persuadée, si elle gagne, beaucoup à droite et à gauche la rejoindront. Il faut donc leur laisser de la place.
Oui, une union nationale de Zemmour à Montebourg, disait même Marine Le Pen il y a quelques mois. Qu'en est-il aujourd'hui ?
Eh bien, ce ne sera ni l'un ni l'autre, Arnaud Montebourg appelant après le premier tour à voter Macron. Quant à Éric Zemmour, Marine Le Pen lui a elle-même claqué la porte au nez, ainsi qu'à Marion Maréchal.
Merci Élodie Forêt. De son côté, Emmanuel Macron va tenter de convaincre les électeurs de gauche qu'il a une ambition écologique. Le président candidat se rend aujourd'hui au Havre pour y visiter une usine de production d'éoliennes en mer. Hier soir sur TF1, il s'est dit une nouvelle fois prêt à enrichir son projet avec des propositions de ses concurrents du premier tour. Macron, Le Pen, ce duel ne passe pas auprès d'une partie de la jeunesse, avec un début de mobilisation étudiante, notamment depuis hier à l'université de la Sorbonne à Paris, où un amphithéâtre est occupé, Agathe Mahuet.
Des conserves, des bananes livrées par la fenêtre
pour le goûter,
car toutes les portes de l'université sont bloquées depuis l'après-midi. 500 étudiants ont voté l'occupation en colère face au duel Macron-Le Pen.
La radicalité néolibérale ou la radicalité fasciste, faut choisir et c'est horrible.
Julien soutient donc le mouvement qui émerge, mais d'autres râlent un peu contre la méthode à quelques jours des partiels. Leur fac évacuée, il a fallu faire cours d'anglais tout à l'heure dans un bistrot.
Du coup, on a plus discuté et bu un petit café.
Allez,
soudain, une porte s'ouvre, enfin.
Tu rentres ou tu rentres pas ?
Dans l'amphi plein à craquer, les assemblées générales s'enchaînent. L'annulation des cours est décidée au moins jusqu'à lundi, le fait de dormir sur place aussi. Et au cœur du mouvement, cette question, comment se positionner quand on a 20 ans et qu'on a voté Mélenchon au premier tour ?
Faire barrage à Le Pen, quoi, en gros, ou ne pas du tout voter. Et donc ça, c'est aussi la grande question qui est en train de se formuler ici.
En attendant, le dîner s'organise.
C'est le distributeur qui a été tournevissé.
Voilà, on a ouvert le distributeur, on donne à tout le monde, partagé.
Certains rêvent d'occuper la fac jusqu'au 24 avril. De son côté, la Sorbonne annonce, vu les événements, qu'elle restera fermée ce jeudi et jusqu'à nouvel ordre.
Un reportage signé Agathe Mahuet. C'est la dernière fois qu'il peut s'expliquer sur les faits. L'interrogatoire de Salah Abdeslam doit reprendre cet après-midi au procès des attentats de novembre 2015. Hier, il a longuement raconté en détail sa soirée du 13 novembre avec des révélations inédites. Comment il serait entré dans un café pour se faire exploser avant finalement de renoncer en voyant les jeunes clients rire et danser. Vous retrouvez l'essentiel de ce récit et le scepticisme aussi des parties civiles sur franceinter.fr. C'est l'une des fiertés de l'armée russe en mer Noire. Ou plutôt, c'était le navire Moskva, un croiseur lance-missile, est en feu, gravement endommagé, de l'aveu même des Russes. L'équipage a dû être évacué. Que s'est-il passé ? Les Ukrainiens affirment l'avoir touché. Kiev qui va pouvoir compter sur du matériel militaire américain supplémentaire. Les États-Unis débloquent une nouvelle aide massive de plus de 700 millions d'euros, avec des armes plus lourdes que celles envoyées jusqu'ici, Sébastien Paour.
Les États-Unis continueront à fournir à l'Ukraine les moyens de se défendre au moment où la Russie se prépare à intensifier son attaque dans la région du Donbass. Voilà comment la Maison-Blanche justifie cette nouvelle aide militaire à Volodymyr Zelensky que Joe Biden a eu au téléphone hier pendant près d'une heure. Il lui a détaillé les moyens supplémentaires mis à sa disposition, des systèmes d'artillerie, des obus, des véhicules blindés de transport de troupes ainsi que des hélicoptères supplémentaires. Des équipements lourds donc que Washington se refusait d'envoyer jusqu'ici pour ne pas être considéré par Moscou comme partie prenante au conflit. Le porte-parole du Pentagone, John Kirby, assure que la décision a été prise en conscience. Chaque décision que nous prenons est un équilibre entre les besoins de l'Ukraine de se défendre et nos responsabilités absolues de penser à éviter l'escalade. Mais ces décisions sont toutes prises avec prudence. Ce sont des matériels dont les Ukrainiens nous ont dit qu'ils pourraient avoir besoin et que nous pouvons obtenir facilement, donc nous nous concentrons là-dessus. Depuis le début de la guerre, les États-Unis ont notamment déjà fourni ou promis à l'Ukraine 1400 systèmes anti-aériens Stinger, 12 000 missiles ou armes anti-chars et plusieurs centaines de drones kamikazes. Washington, Sébastien Paour, France Inter.
Et puis Volodymyr Zelensky n'apprécie pas qu'Emmanuel Macron refuse de reprendre le terme de génocide utilisé par Joe Biden pour qualifier les agissements de l'armée russe en Ukraine. De tels propos sont très blessants pour nous. Je vais discuter de cette question avec Monsieur Macron, réagit le président ukrainien. Le bilan s'aggrave encore en Afrique du Sud, dans les pires inondations qu'ait jamais connu ce pays. 306 morts à ce stade, et c'est encore provisoire dans la région de Durban. Des ponts, des routes, des milliers de maisons se sont effondrées. Ce type de catastrophe était jusqu'à maintenant très rare dans ce pays, généralement épargné par les tempêtes. À New York, le tireur présumé du métro Castro arrêté et inculpé hier soir pour acte terroriste. Il s'agit d'un Afro-Américain de 62 ans dont les motivations restent inconnues à ce stade. On sait seulement qu'il avait publié de nombreuses vidéos sur YouTube pour dénoncer l'insécurité dans le métro, s'en prendre aussi au nouveau maire de la ville. Cette fusillade dans une station de Brooklyn a fait 23 blessés mardi, dont 10 par balle.
Il est 7h40. Où sont passés les tennismen français?
Eh bien, vous ne les trouverez pas, en tout cas, au Masters 1000 de Monte Carlo. Les 5 joueurs tricolores en lice ont déjà tous été éliminés dès le premier tour, du jamais vu depuis 1977. Triste bilan à l'image de l'état actuel du tennis masculin français. D'autant que l'avenir n'est pas vraiment plus réjouissant, Fabrice Abgral.
Il n'y a plus aucun français dans le top 20 mondial et seulement 8 dans le top 100. Gaël Monfils, le premier d'entre eux, est 21e, les 7 autres au-delà de la 50e place mondiale. Pour ne rien arranger, Tsonga, à bientôt 37 ans, a annoncé qu'il allait prendre sa retraite après Roland Garros. Gilles Simon et Richard Gasquet ne devraient pas tarder à le suivre. Quant à Gaël Monfils, il n'a pas l'intention d'arrêter, mais rien ne dit qu'il va continuer à jouer les premiers rôles. Le départ plus ou moins proche de ces quatre-là va laisser un grand vide. Ne pas le dire, c'est nier l'évidence. Thierry Hassion est encore pour quelques semaines l'entraîneur de Tsonga.
Il faut faire le deuil de cette génération au niveau qu'on a connu. Mais la performance qu'on a connue, où tous les quatre en quart du Grand Chelem, on était tous là à se dire, mais c'est normal en fait. Non, c'est pas normal ce qu'ils ont fait. Et voilà, ils étaient différents, mais oui, on a eu une chance incroyable. Quand ils vont arrêter les mecs, ça va vous faire bizarre.
D'autant plus que la relève tarde à s'affirmer. Benjamin Bonzi a 25 ans, il est 63e mondial.
On ne se met pas du tout de pression à se comparer à ce qu'on fait ceux d'avant. Ça a été une génération exceptionnelle. Celle-ci arrive peut-être un petit peu plus doucement. On est 4-5 à y être maintenant. On fait notre chemin comme on peut. On essaie de donner le max. Mais je pense que se comparer à ce qu'on fait les autres, à part se mettre de la pression inutile, ça ne sert pas à grand-chose.
Peut-être, mais pour l'heure, dans 15 jours, Gaël Monfils sera le seul Français par son classement à pouvoir jouer le Masters 1000 de Madrid.
Enfin, deux chocs anglo-espagnols en demi-finale de la Ligue des Champions de football. Le Real affrontera Manchester City, qualifié hier soir aux dépens des autres madrilènes de l'Atlético. L'autre rencontre opposera Villarreal à Liverpool, qui a sorti le Benfica Lisbonne. Rendez-vous les 26 et 27 avril.
Merci Alexis Morel, l'édito politique Thomas Legrand, à suivre.